La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Dans son éditorial du 26 septembre dernier, Richard Horton, le rédacteur en chef de la prestigieuse revue The Lancet, nous invite à ne plus considérer l'épidémie de Covid-19 comme une pandémie, mais plutôt comme une syndémie, c'est-à-dire la rencontre entre une maladie virale provoquée par le SARS-CoV-2 et un ensemble de pathologies chroniques telles que l'hypertension, l'obésité, le diabète, les troubles cardiovasculaires, le cancer, etc. Et c'est muni de cette focale élargie, de ce nouveau prisme Covid-19, qu'une chercheuse et deux chercheurs nous proposent de méticuleusement observer la santé afin de mieux la réinventer ensemble. Jean-Paul Godillière, Caroline Isambert et Pierre-André Juvin sont cette semaine les invités de la suite dans les idées. Et ils seront rejoints en seconde partie par le photographe Antoine D'Agata qui s'est lui aussi muni d'autres focales thermiques, celle-là, pour saisir ce que le virus a fait à l'hôpital et dans les rues. Alors il y a quelques semaines, au mois de septembre, paraissait un premier livre d'un collectif de chercheurs qui donnait des premiers résultats d'un travail à chaud, en cours. Ce livre paraissait aux presses de Sciences Po, Covid-19, une crise organisationnelle. Il était dû à des sociologues du Centre de sociologie des organisations, Boras, Bergeron, Castel et De Dieu. Et là, paraît en cette rentrée de janvier, le deuxième de ces livres collectifs de chercheurs qui ont décidé de travailler vite, de s'atteler à ce qui se passait sous leurs yeux, de recourir aux outils qu'ils avaient eu l'occasion de mobiliser dans des travaux antérieurs pour penser au plus vite cette pandémie ou cette syndémie. Et c'est le titre pandémo-politique qu'ont retenu Jean-Paul Godillière, Caroline Isambert et Pierre-André Juvin. Ils sont tous les trois les invités de l'émission cette semaine. Deux historiens, Jean-Paul Godillière et Caroline Isambert, et un sociologue, Pierre-André Juvin, pour aborder cette crise dans différents aspects, non seulement la question des masques, la question des tests, la question de l'hôpital, mais aussi des pistes pour peut-être imaginer d'autres solutions, d'autres manières de gérer une situation telle que celle que nous vivons actuellement. Et puis aussi, nous aurons sans doute l'occasion d'en parler, ce qui les a rattrapés, parce que le virus nous rattrape tous, la vaccination, dont il est par définition encore assez peu question dans ce livre. Bonjour Jean-Paul Godillière.
Bonjour.
Vous m'entendez? Vous êtes historien, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez choisi comme porte d'entrée, au fond, face à cette situation, de prendre au sérieux un mot qu'on a pas mal entendu, que beaucoup ont découvert à la faveur de cette pandémie, le mot triage. Alors le mot triage, on l'a entendu à propos du tri que devraient faire des soignants en décidant si telle ou telle personne avait le droit d'accéder à la réanimation. Et évidemment, c'est un caractère très dramatique, mais vous proposez-vous une autre définition, une autre acception de ce terme de triage, qui est un terme classique de la médecine depuis le 19e siècle, pour parler de triage systémique. Qu'entendez-vous par là?
Oui, le point de départ, en fait, c'est cette idée d'abord que le triage, c'est pas quelque chose d'exceptionnel dans la médecine, que c'est un élément permanent de l'activité médicale, alors plus ou moins poussé, plus ou moins aigu. Dans le cas de la réanimation, il s'agit de quelque chose qui a été reconnu de longue date, pour lequel il y a eu des réflexions collectives, l'écriture de recommandations, de normes, de critères, etc. Mais toute activité médicale, en fait, est une évaluation d'état de santé et, en correspondance, une allocation de soins dans des conditions qui sont définies par un certain nombre de ressources qui peuvent être allouées. Et dans ce sens-là, le triage est vraiment partie intégrante de ce travail médical quotidien, quasiment quels que soient les lieux où on l'observe. Alors après, dont il a été énormément question dans le débat public, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, c'est une dimension particulière du triage, qui est ce qui se passe en clinique. Et quand une partie des professionnels disait, par exemple, qu'il n'y a pas eu de triage, on peut dire que c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai dans la mesure où le triage qui a eu lieu, par exemple, pour l'admission en réanimation n'est pas nécessairement un déni de soins. Un certain nombre d'interrogations parfaitement légitimes portaient, par exemple, sur la capacité des personnes à pouvoir supporter ce qu'est une intubation, une réanimation, et le fait que pour beaucoup de personnes âgées, il s'agissait d'une procédure extrêmement lourde dont il était parfois difficile de savoir si les personnes pourraient s'en remettre. Bon, mais c'était vrai dans le sens où toute orientation suppose à un moment donné, et toute décision d'allocation de soins suppose que l'on tienne compte des ressources qui sont disponibles et du coup des conditions de possibilité de ces interventions. Et dans le contexte de la pandémie de Covid-19, et bien le triage a aussi voulu dire gérer les lits, gérer des allocations de matériel, gérer des allocations de personnel, etc., dans des situations contraintes. Et dans ce sens-là, c'est du triage au sens tout à fait classique. Alors la distinction par rapport à ce triage clinique quotidien qu'on a voulu faire, c'est d'insister sur le fait que le triage peut être aussi systémique au sens où l'allocation des ressources est une allocation collective, fait intervenir des politiques, et c'est dans ce sens-là où au triage clinique quotidien associé aux interventions sur les corps, on a aussi un triage institutionnel, politique, économique, intervenant du coup en relation avec la gestion de l'ensemble du système de santé.
Caroline Isambert, vous êtes également historienne, docteur en histoire, et vous êtes par ailleurs directrice du plaidoyer de AIDE, co-auteur de ce livre. Si on poursuit les propos de Jean-Paul Godillière à l'instant, pour mieux comprendre ce qu'on peut entendre par triage, on peut remonter aussi encore plus en amont, en quelque sorte, parce que le tri a toujours déjà commencé, en quelque sorte. Le tri, c'est aussi des inégalités sociales qui se trouvent en amont, et c'est ce que permet de comprendre, on y reviendra, cette notion de syndémie, parce qu'au fond, cette affection virale va se manifester de façon beaucoup plus sévère dès lors que des fragilités sont en place.
Oui, tout à fait. Toutes les épidémies appuient de façon plus ou moins forte sur un certain nombre d'inégalités qui sont préexistantes dans les sociétés. Alors, de façon assez différente, hein, on se souvient, et c'est toujours d'actualité, l'épidémie de VIH n'est pas répartie de façon égalitaire dans la population, et on a certains groupes qui sont plus touchés que d'autres. Et ce sont des groupes différents dans le cadre du Covid-19 qui sont touchés, mais qui ont rejoué, et avec une force, je pense, qui nous a beaucoup tous marqués, y compris les gens qui travaillent dans le champ de la santé depuis longtemps, des inégalités sociales très fortes. D'une part, on s'est rappelé les inégalités sociales de santé, le fait que parmi les populations les plus pauvres, on a une surreprésentation des personnes vivant avec des comorbidités, avec du diabète, avec de l'asthme. Tout ça a dû à un certain nombre de facteurs, notamment le fait que dans les quartiers les plus pauvres, vous allez avoir un air de moins bonne qualité, vous allez vivre dans les logements qui sont plus exigus, et là encore, qui vont avoir un certain nombre d'effets sur la diffusion du virus. Et c'est ce qui fait que, et là, les premières enquêtes, notamment EPICOV, montrent bien que les personnes les plus pauvres ont été plus exposées au virus. Et puis elles ont été aussi plus exposées au virus du fait de leurs activités. On voit, il y a eu un changement de langage dont on peut peut-être espérer qu'il va perdurer. On est passé des emplois peu qualifiés, quelque chose qui était quasiment péjoratif, aux activités essentielles. On s'est rendu compte que dans les supermarchés, on avait de besoin de façon impérieuse de personnes qui remplissent les rayons, qui amènent les marchandises, et puis qui scannent les codes-barres, et que tous ces métiers sur lesquels on a un regard regard souvent négatif, se sont révélés des maillons essentiels de nos sociétés. Mais ces activités ont exposé les travailleurs et les travailleuses plus régulièrement, plus intensément au virus, virus que ces personnes ont été plus susceptibles de ramener dans leur famille ou, et là on voit que l'ensemble fait système, dans ces familles où il y a plus de comorbidité, de difficultés de santé. Et les inégalités sociales de santé qui sont bien connues, hein, on voit qu'on a peu d'outils dans le système de soins français pour y parer. Et on voit que ce qui a été mis en place pour lutter contre cette pandémie, ça a été des choses extrêmement verticales, voire des choses extrêmement autoritaires, à un moment où franchement on n'avait plus vraiment d'autres possibilités, mais que ce travail en finesse pour aller au-devant des personnes les plus fragiles et les plus fragilisées, il a été très peu fait.
Alors, il a été beaucoup question, enfin, il est beaucoup question depuis le démarrage de cette pandémie, de l'hôpital qui est devenu le lieu central, le lieu vers lequel les regards se sont tournés, alors même que beaucoup de choses se passaient ailleurs et beaucoup de morts en particulier survenaient ailleurs qu'à l'hôpital. Le grand mérite de votre livre, c'est de s'intéresser évidemment à l'hôpital, mais pas que à l'hôpital. L'hôpital, vous connaissez bien, Pierre-André Juvin, vous avez travaillé aussi sur les réformes, les politiques publiques en matière hospitalière depuis des années. Et le livre est important parce que vous insistez sur le rôle de ces méthodes nouvelles de management, le New Public Management, la gestion, l'approche gestionnaire à l'hôpital, qui a eu un rôle dans un certain nombre de conséquences de traitement de cette épidémie. Et en même temps, vous ne voulez surtout pas faire de ces variables-là les seules variables explicatives des échecs. Il y en a d'autres qui n'ont rien à voir avec ça.
Tout à fait. Alors sur l'hôpital, il y a effectivement deux points essentiels qu'on travaille dans le livre avec Jean-Paul et Caroline. Le premier fait suite à une enquête collective qu'on a conduite avec des collègues du CERMES 3, notre laboratoire.
Oui, je ne l'ai pas précisé, vous êtes sociologue et chargé de recherche au CNRS.
Tout à fait, voilà. Et on a conduit à chaud, comme beaucoup de chercheurs et de chercheuses en sciences sociales au moment de la pandémie, une série d'enquêtes sur ce qui se passait, parce que c'est venu évidemment saisir les sciences sociales à vif, cette pandémie. Et on a notamment conduit un certain nombre d'enquêtes dans les établissements de santé partout en France pour voir ce qui s'y passait. Et ce qu'on a pu observer et étudier, premièrement, c'est d'abord la nécessité de mettre à distance la mythologie et le récit qui s'est constitué autour de l'hôpital durant cette crise. Non pas que l'hôpital n'ait pas joué un rôle essentiel et extrêmement fort dans la prise en charge des patients, non pas qu'il n'y ait pas eu de bouleversement au sein des institutions hospitalières très important, mais parce qu'il y a eu un récit entretenu par le pouvoir politique et à dessein, c'est devenu aussi un outil politique visant à faire de l'hôpital ce lieu qui résiste à tout, qui encaisse le choc à merveille et qui est capable de s'adapter à cette situation et qui ne trie pas, qui n'est pas amené à trier, à la différence, c'est ce qu'a dit Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, de l'Italie qui, elle, aurait été prise par surprise. Ce qu'on montre dans le livre, et c'est le résultat des enquêtes qu'on a conduites au printemps, c'est qu'en fait, il est très difficile de distinguer ce qu'est une opération de triage pour cause de pénurie, pénurie de professionnels, pénurie de lits, pénurie de respirateurs, et une transformation des pratiques médicales en situation. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire que dans les enquêtes qu'on a pu conduire, les professionnels de santé nous disaient on a été contraints de moins intuber des personnes ou d'utiliser du matériel moins poussé, et a posteriori, ça s'est avéré finalement suffisant. Et donc, cette transformation des pratiques, a posteriori, elle est lue comme telle, en situation et sur le moment, c'est évidemment une opération de triage sous contrainte. Ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu une tendance à valoriser des héros et des héroïnes que nous applaudissions toutes et tous le soir. Ce que montre l'enquête, c'est que ça a eu un prix quand même pour les professionnels de santé à l'hôpital. Il y a des gens qui sont passés des services de pédiatrie aux services de réanimation avec des conséquences sur leur santé mentale extrêmement, extrêmement forte. Il y a eu des démissions suite au printemps du fait de ces bouleversements. Donc voilà, il y a une nécessité de mettre à distance. Et un point très important que vous mentionnez, et je m'arrêterai là-dessus, et on va sûrement en dire un peu plus après, c'est la nécessité dans cette crise précisément de ne pas trop regarder l'hôpital. Il faut regarder l'hôpital, il y a une nécessité de penser la casse dont il a été victime depuis des décennies, mais il y a nécessité dans cette période et à partir de cette année 2020 de voir que l'hôpital est un rouage du système de santé et que ce qui a fait défaut, ou en tout cas ce qui doit nous occuper à partir de cette pandémie, ce n'est pas tant l'hôpital public que le système de santé publique dans son ensemble et l'ensemble des inégalités sociales et de santé qui font que l'on va ou que l'on ne va pas atterrir à l'hôpital.
Alors on comprend bien, Jean-Paul Godillière, cette focalisation sur l'hôpital, cette focalisation sur l'urgence de la clinique, du soin à apporter à des gens qui, si on ne leur porte pas secours, vont mourir. En fait, il y a nécessité d'élargir le regard pour poser ces questions de santé publique. Et dans le livre, vous soulignez, et ce n'est pas le constat a été fait de longue date, mais c'est important de voir comment cette crise l'a révélé encore davantage, la santé publique est quelque chose de pas suffisamment considéré en France, notamment au regard de ce que la situation peut être ailleurs, et évidemment en Grande-Bretagne, où elle joue un rôle beaucoup plus important.
Oui, vous mentionniez le fait que dans les grilles d'interprétation et d'explication qu'on mobilise, il n'y a pas seulement la trajectoire relativement récente des réformes et des politiques d'aspiration plus ou moins néolibérales qui ont caractérisé la gestion hospitalière, par exemple, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, mais qu'il y a des éléments qui sont de plus longue durée, qui sont aussi décisifs dans la façon dont on peut s'organiser les réponses à la pandémie et une partie des difficultés qui ont été rencontrées, en particulier quand on s'intéresse aux pénuries et à la façon dont celles-ci ont à la fois occupé le débat public, mais aussi occupé beaucoup les soignants, les patients, les intervenants, du fait de l'absence d'un certain nombre de matériels, des masques ou tests, en passant plus récemment là la discussion sur le vaccin, par exemple. Et un des nœuds pour l'interprétation et la compréhension de ces difficultés, c'est effectivement cette relative faiblesse de la santé publique en France depuis une relativement longue durée, en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale, avec le recentrage du système de soins sur la question de la prise en charge curative, de la thérapie et sur l'hôpital. Bon, l'histoire des masques est d'une certaine façon bien connue. Elle est tout à fait emblématique de la conjonction entre ces différents facteurs, puisque d'un côté, on a ce qui a été rapporté très largement dans les médias sur la gestion du stock et un certain nombre de décisions qui ont abouti à cette situation du printemps où soit ce qui restait en stock était périmé et plus utilisable, soit avait été détruit auparavant. Mais ce qui relève de la faiblesse des institutions de santé publique et des politiques de santé publique dans ce pays, c'est aussi la très grande difficulté à mettre en place, et dans le cas des masques, ça s'est traduit par la permanence des débats, des controverses, des difficultés à s'approprier cet outil tout simple qui n'est pas de la grande technologie et à en reconnaître l'efficacité. Donc, ce qui était la controverse, donc, sur est-ce que ça sert ou est-ce que ça sert pas en l'utilisation non seulement à l'hôpital pour les professionnels, mais aussi pour les grands publics. Et de ce point de vue-là, le regard aurait pu très utilement être porté sur d'autres expériences, d'autres pays, au-delà de l'Europe, par exemple sur ce qui s'était passé en Asie, dans un certain nombre de pays, dans le contexte de l'épidémie de SARS, donc le premier SARS, le SARS-CoV-1, et dont un des effets a été, après le même genre de tension que ce qu'on a pu voir en France, entre une expertise professionnelle, mais doutant de l'utilité et de l'efficacité des masques, leur adoption par le public et finalement leur intégration à des politiques de préparation et de réponse aux pandémies renouvelées et complètement refondues.
Alors,
Ça, c'est.
l'Asie, mais aussi, on peut regarder du côté de l'Afrique, Caroline Isambert, puisqu'on s'aperçoit que l'épidémie là-bas n'a pas pris la même ampleur que sur d'autres continents, et on peut se poser la question des raisons qui permettent d'expliquer cette situation, parmi lesquelles peut-être une autre conception du triage et une médecine que vous appelez communautaire dans la dernière partie de ce livre, où vous appelez à des solutions, d'autres manières de considérer la santé publique.
Oui, ce qui a été marquant dans cette crise, c'est que au départ, pour essayer de voir ce qu'il fallait comprendre et ce qu'il fallait faire, on est allé regarder, par exemple, les premiers modèles épidémiologiques. On est allé les chercher du côté des Britanniques, qui ont un savoir-faire immense de ce côté-là. On est allé s'inspirer du confinement chinois. Et alors même qu'il y a une histoire longue des relations autour de la médecine entre la France et un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest pour des raisons historiques assez évidentes, on n'est pas allé voir là où il y a un savoir-faire qui maintenant a plusieurs dizaines d'années de gestion des épidémies et de gestion de cette question de la transmission. L'Afrique de l'Ouest a été touchée par une épidémie dramatique il y a quelques années qui connaît des rebondissements depuis, qui est l'épidémie d'Ebola, et vous avez certains pays comme la Guinée, qui ont mis en place ce qu'on appelle là-bas des acteurs de santé communautaire, qui ont fait le boulot de tracing, c'est-à-dire d'essayer de comprendre une personne malade, qui elle a rencontré dans les jours qui précèdent, quel est le milieu qu'elle fréquente, quels sont ses lieux habituels, pour essayer de reconstituer les chaînes de contamination. Et au moment du Covid-19, on a réinvesti ce réseau de personnes formées pour faire le même métier. Et on peut penser que ça peut être l'une des raisons qui peut expliquer que dans certains pays, les mises en place des dispositifs de prévention ont été beaucoup plus rapides et beaucoup plus facilement appropriés par les populations qu'en France. Alors, je mets un petit bémol parce que les raisons pour lesquelles certains pays africains n'ont pas été touchés, c'est aussi parce qu'on a un défaut de surveillance épidémiologique. Et par ailleurs, rien n'est joué. Il faudra être extrêmement attentif dans les mois qui viennent à ce qu'il arrive à ces pays et notamment au fait qui vont avoir accès ou non au vaccin. Mais pour revenir sur la question de la santé communautaire, on a beaucoup de pays qui, finalement, n'ont pas eu le luxe d'organiser leur système de soins autour de soignants, mais autour d'autres métiers, avec des gens qui n'ont pas reçu de formation, médicale intégrale, mais qui ont un atout très fort, c'est qu'ils connaissent, l'environnement dans lequel ils vivent et qui comprennent quelles sont les contraintes des personnes, par exemple les contraintes pour mettre en place des enjeux de prévention, et que ça, dans un moment où on est dans un moment de pénurie un peu structurelle de soins, c'est extrêmement utile. En France, la santé communautaire, elle a quelques succès, par exemple la réduction des risques pour les usagers de drogue par voie intraveineuse, qui a permis de faire baisser drastiquement la contamination au VIH de ces personnes. Mais finalement, elle a des difficultés à essaimer au-delà, et aujourd'hui, on le paye relativement cher, le fait d'avoir ce système de santé qui est uniquement structuré autour des soignants.
Alors, on voit bien ce que cette approche et un appui aussi sur la médecine générale pourrait apporter dans la nouvelle phase qui vient de s'ouvrir, celle de la vaccination qui commence. Pierre-André Juvin, il n'en est pas question dans ce livre passionnant, hein, Pandémo politique, que vous co-signez tous les trois, parce que vous avez regardé ce qui s'était produit. Mais au fond, vous nous donnez un certain nombre d'outils pour imaginer des stratégies par rapport à cette nouvelle phase.
Tout à fait. Et la question de la vaccination ferait un dixième chapitre merveilleux si le livre n'était pas encore sorti, parce que précisément l'outil conceptuel à partir duquel on peut lire les questions posées par la vaccination, c'est à nouveau celui du triage. On a à nouveau un bien de santé, alors les vaccins en l'occurrence, en quantité limitée, qui suppose une logistique nouvelle et qu'il s'agit d'allouer de la façon la plus juste et la plus efficace possible. Et évidemment, dès qu'on rentre dans le détail, ça pose un certain nombre de questions et de controverses qu'on retrouve aujourd'hui en ouvrant nos radios et nos postes de télévision. Ce qui est intéressant dans le cas de la vaccination, quand on l'observe précisément à l'aune de cette question du triage, c'est que c'est précisément un reproche et légitime qui a été formulé au printemps 2020 et pendant l'année 2020, de l'absence de prise en considération et de perspective des pouvoirs publics sur cette question. Qui est prioritaire? Qu'est-ce qu'on protège avant tout? Et notamment, c'est ce qui a conduit à des controverses très importantes sur la situation des EHPAD, qui ont été délaissés une grande partie du temps. Quelles priorités de santé ont défini dès le moment où, et on en a établi les causes, on ne dispose pas suffisamment de masques, de tests, de personnel de santé, de cadres de santé épidémiologiques qui sont capables de retracer les chaînes de contamination, de personnes capables d'assurer le tracing et le suivi des personnes contaminées. Bref, quelles sont les priorités, les populations prioritaires? Or là, sur la vaccination, et il faut savoir le reconnaître aussi, il y a eu ce travail qui a été fait, notamment via la commande d'un rapport à la Haute Autorité de Santé qui a établi un calendrier en fonction de public prioritaire. Ce qui est évidemment intéressant d'observer, c'est que à nouveau, les difficultés qu'on a à organiser un système de santé publique et de prévention, de vaccination en France, fait que ce calendrier et cette logique de priorisation, elle est mise à mal au bout de quelques semaines à peine par des consignes et des injonctions politiques contradictoires qui font que finalement, on chamboule du jour au lendemain ce calendrier.
Peut-être, si je peux me permettre.
Oui, Caroline Zerbel, rapidement.
Oui. Peut-être sur les EHPAD, qui est quand même un point absolument essentiel. Nous sommes allés interroger les membres de la mission de Médecins sans frontières qui sont allés dans les EHPAD, ce qui aussi raconte quelque chose de la gravité de la situation en France quand c'est Médecins sans frontières qui doit intervenir. Et eux, du point de vue de la médecine humanitaire, de catastrophe, ils nous ont dit, mais nous, dans une circonstance de catastrophe, notre réflexe, c'est d'aller là où on meurt le plus. Et du coup, ben nous, notre réflexe, ça a été d'aller dans les EHPAD, et là, dans les EHPAD, ils ont découvert qu'il y avait personne. C'est-à-dire que la médecine avait abandonné non seulement au cours de la crise, mais en fait que la médecine était structurellement peu présent dans les EHPAD, alors même qu'on a des gens qui ont des profils de santé très dégradés. Et c'est vrai que c'était vraiment notable le fait que cette logique d'aller là où l'épidémie frappe le plus durement, et le fait que la vaccination y ait eu un signal fort et finalement une forme de reconnaissance par les autorités de santé qu'il fallait réparer quelque chose qui avait été manqué, c'est vrai que c'est un peu troublant de voir qu'en quelques jours cette priorisation, qui était aussi une priorisation de justice sociale, a volé en éclats.
Pandémopolitique, réinventer la santé en commun, c'est le titre du livre co-signé par Jean-Paul Godillière, Caroline Isambert et Pierre-André Juvin, qui sont aujourd'hui les invités de la suite dans Les Idées. On continue d'en parler dans la seconde partie de l'émission avec le photographe Antoine Dagata qui nous rejoint, mais c'est après un extrait du nouvel album du rappeur d'Atlanta Playboi Carti, Stop Breathing.
Breathe, 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 stop, breathe, 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 breath France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Virus, on parle d'un virus aujourd'hui à la suite dans les idées, le SARS-CoV-2. Virus, c'est aussi le titre d'une série, d'un travail que vous avez mené, Antoine D'Agata. Bonjour. Vous nous entendez ? Antoine D'Agata ?
Vous m'entendez ?
Oui, on vous entend.
Oui, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, ça marche très bien. Je le disais, vous avez mené ce travail virus au printemps pendant ce qu'on appelle désormais le premier confinement. Vous êtes photographe, vous êtes rattaché à l'agence Magnum, dont vous étiez le président d'ailleurs de la branche française. Et vous vous êtes trouvé à Paris au moment où cette épidémie a pris de l'ampleur en France. Et très vite, vous avez décidé de documenter cette situation en vous concentrant sur deux types de lieux différents. D'un côté, les hôpitaux. Et plus particulièrement les services de réanimation, et de l'autre, les rues vides ou à peu près vides, parce que certains continuaient d'y vivre et d'y habiter, de Paris, Antoine D'Agata.
Oui, il a fallu réagir très vite à ce moment-là, et avant même que le confinement soit déclaré, soit instauré, j'ai dû décider quelle devait être ma position, enfin, quelle devait être l'attitude à avoir face à cette crise et à ses contraintes. Et je sais que je ne suis pas en mesure d'analyser ou de regarder les mécanismes sanitaires, économiques, politiques, mais tout mon travail porte plutôt sur les responsabilités et le devoir de chacun de comment agir dans un tel contexte.
Donc vous êtes senti en quelque sorte requis par la situation, ce qui n'a pas été le cas de tous vos collègues.
Mais je crois que tout mon travail porte sur cette responsabilité, en fait, sur en tant à la fois qu'être existentiel, physiologique, émotionnel, mental, et aussi en tant qu'être social, dans un contexte, dans le monde contemporain où on est contraint ou poussé chaque jour à devenir plus consommateur et spectateur, quel est l'antidote à cet état, à cette situation, comment agir pour retrouver une liberté d'action, de pensée. Je crois que dans un monde où on est tous les jours plus victimisé, manipulé, désinformé, où on, dans ce contexte précis où on était protégé contre nous-mêmes, il est important pour moi de retrouver une marge d'action, une marge de manœuvre possible.
Cette marge d'action, vous l'avez cadrée au fond en choisissant deux espaces dans lesquels évoluer, continuer d'évoluer, alors même que nous étions confinés. D'un côté, les services de réanimation des hôpitaux, et de l'autre, les rues. Comment s'est passé comment avez-vous fait ce double choix ?
Il y a plusieurs raisons, enfin plusieurs. Tout est mêlé, mais d'abord, j'ai beaucoup lu Giorgio Agamben à ce moment-là et son concept de la vie nue qui parle de l'être réduit à sa plus simple expression, à son état le plus démuni, le plus fragile, le plus dépouillé, et ce, à la fois face à la mort et à un niveau physiologique, médical, et aussi face aux contraintes économiques et politiques. Et donc, il était important pour moi de ne pas me cantonner au territoire médical, mais toujours de garder en tête cet aspect social, économique des choses. Aussi, je crois qu'il y avait deux réalités qui étaient, enfin, c'était assez schizophrénique comme réalité. La rue était pleine était saturée de folie, d'aliénation, d'exclusion, de rage, de dépossession, de frustration. Et à l'hôpital, c'était une toute autre violence. C'était, malgré la violence intrinsèque à l'hôpital, il y avait quand même un sens de la communauté retrouvée, il y avait de l'empathie, il y avait les personnels soignants agissaient au jour le jour. Et c'était violent aussi, mais il était important pour moi de rendre compte de ces deux réalités très différentes.
Et ces deux types de violences, vous en avez rendu compte en faisant un choix esthétique qui est aussi un choix technique, qui était celui de travailler avec un appareil thermique. Vous savez, ces appareils qui permettent de mesurer au fond la température et de la traduire avec une colorimétrie, avec des dégradés de couleurs différents. Pourquoi ce choix ?
Parce que je crois que j'ai eu conscience dès le départ qu'il n'y avait pas, enfin, en tout cas, dans ma position, qu'il n'y ait pas grand-chose à documenter. Je ne pouvais pas rendre compte ou témoigner de l'aspect médical des choses. Par contre, le thermique me permettait de rendre compte d'autres réalités, plus intangibles, plus abstraites, à la fois émotionnelles et mentales. Et oui, je voulais rendre compte de l'anxiété, de la peur, de choses qui sont pas forcément... de la lumière ne rend pas compte, mais dans... Enfin, c'était comme regarder à d'autres niveaux de réalité. Et cette abstraction, cette essentialité, le langage thermique me permettait de tenter de rendre compte.
Alors évidemment, ça implique des contraintes, parce que c'était une manière de produire des images qui peuvent pas être très grandes. Votre action a consisté non seulement à prendre des milliers d'images pendant cette période, mais aussi à réfléchir à la manière de les montrer, de les partager. Et ça a pris une double direction. D'un côté, une exposition qu'on peut voir encore à Paris, à la Fondation Brownstone, pendant jusqu'à quelques jours encore. Et puis un livre que vous avez, alors qu'il était difficile de produire ce genre de choses, décidé de produire vous-même un très gros volume, très impressionnant, Antoine d'Agata.
Comme vous l'avez dit vous-même, vous l'avez suggéré, c'est que plutôt qu'un objet ou qu'un virus, enfin pour moi, se résume à un geste plus qu'à un objet. Et il est important de montrer l'ampleur ou la démesure de ces réalités que je traversais et qu'on a tous partagées d'une manière ou d'une autre. Et d'où l'accumulation d'images, d'où la recherche permanente d'un état ou photographier qui est toujours un mélange en fait de raison, parce qu'il y a une certaine lucidité qui est nécessaire, mais aussi essayer de toucher à, ou d'atteindre des états plus instinctifs, plus animaux parfois, face à cette accumulation de tragédie, enfin de situations tragiques, et c'est compliqué de rendre compte aussi avec les contraintes du moment, qui étaient à la fois financières, à la fois le manque d'autorisation, enfin j'étais un peu sans statut et sans, donc il a fallu produire les images, inventer ce livre, monter cette exposition dans cette même énergie, un peu parfois désespérée, parfois privilégié, parce que aussi cette liberté d'action, de mouvement permet aussi parfois d'être seul dans des espaces, d'avoir une perspective qui est... Enfin, en fin de compte, c'est toujours une responsabilité et un privilège de prendre le risque d'agir de façon autonome. Et c'est tout ça lié.
Responsabilité et privilège, c'est deux mots que vous retiendriez également, Caroline Isambert, Pierre-André Juvin, Jean-Paul Godillière. Comme chercheur, vous vous êtes senti un peu à la manière d'Antoine d'Agata, requis de travailler vite et de partager vite aussi les résultats de votre travail ?
Oui, il y a une forme de réponse aussi à l'état de sidération qui a touché tout le monde à partir du moment où la décision de confinement a été prise au mois d'avril et où le sérieux de la situation est devenu quotidien et ressenti par tout le monde. Et du coup, c'est bon. Dans ce sens-là, on peut dire il y a une forme de responsabilité au sens de essayer de s'interroger sur ce qui nous arrive et puis de remobiliser une partie des choses qui ont été explorées, travaillées par les sciences sociales de la santé depuis des années et qui sont des éléments d'interprétation importants pour comprendre d'où ça vient. Bon. Et responsabilité aussi, je dirais, parce que le livre n'est pas seulement un livre de chercheurs ou d'exploration, d'enquête, ou de présentation de résultats d'enquête. C'est aussi vraiment une interrogation sur comment on en sort et du coup quels sont les éléments qu'on peut mettre sur la table pour essayer de penser un avenir en commun pour refondre ce système de santé qui a à la fois de très grande qualité et en même temps de toute une série de difficultés et de limites. Mais moi, j'avais une toute petite question pour Antoine Daguetta que je trouvais vraiment, enfin, je trouvais cette idée de l'utilisation des caméras thermiques, je trouvais très intéressante. Aussi peut-être à cause du flou. Et qu'est-ce que ça a voulu dire dans votre expérience à la fois dans les rues et à l'hôpital, du point de vue de la restitution de la pluralité des corps, et ce flou et la question peut-être des limites pas évidentes de chacun de ces corps.
Je crois que le flou en fait autorise un espace pour aborder les choses d'une autre façon, pour se poser d'autres questions, pour je pense aussi à la mort. Enfin, j'ai assisté à des autopsies, enfin, sur des corps sur des personnes qui étaient décédées des suites de du virus, et en fait le flou, ces couleurs étranges, permettent à la fois de contourner mais aussi d'affronter de façon plus directe des choses qui sont intangibles. Je sais que ces différences de couleurs, ces formes qui sont plus de l'ordre de la figure que du corps, permettent d'aller un peu plus loin, ou si c'est pas plus loin, enfin en tout cas de toucher différemment ces choses-là. Et aussi, encore une fois, c'est mon propos et ma recherche portait plus sur des aspirations, des mouvements, des réactions, des positions possibles. Et le flou, bien sûr, fait abstraction de tout ce qui est anecdotique, de tout ce qui est circonstanciel, et permet d'espérer, en tout cas, toucher à des choses plus profondes.
Merci beaucoup, Antoine Daguetta. Virus, c'est le titre de ce travail, de cette série qui prend la forme d'une exposition visible encore quelques jours à la Fondation Brandstone à Paris, et puis d'un livre. On trouve les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les Idées. On trouve également celle de Pandémo Politique, le livre de Jean-Paul Godillière, Caroline Isambert et Pierre-André Juvin, dont nous avons parlé aujourd'hui à La Suite dans les Idées. Une page sur laquelle vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les Idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier. À la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige. À la réalisation, Guillaume Baldi.